Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 15h en temps universel, 16h à Paris et à Belgrade. Le journal vous est présenté par Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans cette édition, nous reviendrons sur la démission du Premier ministre serbe, Miloš Vučević, l'a annoncé après 3 mois de manifestation. Cette contestation fait suite à la catastrophe qui a fait 15 morts dans la gare de Novi Sad. Désormais se pose la question de l'avenir politique de la Serbie et de son président. Nous ferons le point sur la situation en RDC. À Kinshasa, des ambassades ont été dégradées. Colère des manifestants quant à la situation au Nord Kivu, dans la ville de Goma. Une ville en proie aux affrontements entre l'armée congolaise et les hommes du M23 soutenus par le Rwanda. Des échanges de tirs ont résonné ce matin dans la zone de l'aéroport. Et puis il va être chargé de mettre en œuvre les priorités économiques de Donald Trump. Vous entendrez le portrait de Scott Bessent, le nouveau secrétaire au Trésor des États-Unis. Cette décision va-t-elle apaiser la situation en Serbie ou va-t-elle au contraire galvaniser l'opposition ? Le Premier ministre vient d'annoncer sa démission. Miloš Vučević quitte son poste face au mouvement de contestation qui touche le pays depuis 3 mois. Manifestation à la suite du dramatique incident qui avait fait 15 morts dans la gare de Novi Sad en novembre dernier. Visiblement, la pression exercée par des manifestants commence à payer avec cette démission du chef du gouvernement. Ce dernier était personnellement pointé du doigt, Daniel Valo.
Miloš Vučević était à la tête du gouvernement depuis moins d'un an. Auparavant, il avait occupé les fonctions de ministre de la Défense. Il a également été maire de Novi Sad et c'est sous son mandat de maire qu'ont été réalisés les travaux de la gare. Travaux conclus quelques mois avant l'effondrement de l'auvent qui a provoqué la mort de 15 personnes en novembre dernier. Alors bien entendu, la démission de Miloš Vučević doit servir de paratonnerre au président serbe Aleksandar Vučić, qui est au pouvoir en Serbie depuis 2012 et qui assure avoir répondu aux demandes des manifestants et des étudiants qui défilent depuis des mois dans les rues de Belgrade et des principales villes du pays. Cette fois, devant l'ampleur de la contestation, c'est donc le chef du gouvernement qui est sacrifié. Mais la réalité du pouvoir en Serbie, c'est bien le président Vučić qui l'exerce. Il reste donc à voir la réaction dans la rue de l'opposition et des étudiants qui pourraient décider de maintenir la pression pour faire vaciller le président serbe lui-même.
Précision signée Daniel Valo du service international d'RFI. J'ajoute que dans la foulée de cette démission, celui qui a succédé à Miloš Vučević en tant que maire de Novi Sad, Milan Đuric, a lui aussi annoncé sa propre démission au nom, je cite, de la stabilité et de l'apaisement des tensions. La situation est toujours aussi préoccupante en République démocratique du Congo. Des tirs ont retenti ce matin dans la zone de l'aéroport de Goma, la capitale du Nord Kivu. Affrontement entre l'armée congolaise et les combattants du M23 soutenus par le Rwanda. L'ONU alerte quant à un risque de pénurie alimentaire. À Kinshasa, des manifestants se sont réunis devant plusieurs ambassades, celles du Rwanda, des États-Unis, de la France ou encore de la Belgique. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se réunit aujourd'hui, tout comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. La Jordanie lance un pont aérien pour apporter de l'aide à Gaza. 16 hélicoptères militaires, 2 italiens et 14 de l'armée de l'air jordanienne affrétés pour le transport d'aide humanitaire, médicale et alimentaire vers l'enclave palestinienne dévastée par 15 mois de guerre. Il s'agit des premières livraisons humanitaires jordaniennes depuis l'entrée en vigueur le 19 janvier d'un accord de cessez-le-feu. Hier, des centaines de milliers de Palestiniens déplacés ont marché pour retourner chez eux au nord de la bande de Gaza.
RFI.
C'est une irruption qui ébranle les géants de la Silicon Valley. Un avertissement pour les États-Unis, considère Donald Trump. Le logiciel DeepSeek est l'équivalent du ChatGPT chinois. Il a semé un vent de panique sur les marchés boursiers depuis hier et dans le petit monde des géants de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Car il est devenu ce week-end l'application gratuite la plus téléchargée dans le pays. DeepSeek a été développé pour quelques millions de dollars seulement. Gaël Varocco est chercheur à l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique et selon lui, l'arrivée fracassante de cette application chinoise montre que les Américains ne sont pas les seuls à pouvoir développer ce genre d'outils.
Ce que DeepSeek nous montre, c'est qu'il ne faut pas fixer la narration sur les États-Unis. Le grand public voit enfin le fait que la Chine a une qualité de recherche et développement qui ne fait que s'améliorer. Et puis il se passe aussi des choses très très bien en Europe, Et les États-Unis sont les plus gros parce que c'est la plus grande économie du monde. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'on peut faire des contributions vraiment fantastiques sans être les plus gros. Donc clairement, la Chine est extrêmement active. J'espère qu'on va voir aussi des belles choses en Europe.
Des propos recueillis par Justine Fontaine. L'Europe, justement, au soutien du Danemark au sujet du Groenland. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, se réjouit du soutien de ses homologues européens. Face aux visées expansionnistes de Donald Trump, celui-ci n'aura pas le Groenland, assure également le ministre danois des Affaires étrangères, alors que le président américain de retour au pouvoir martèle sa convoitise à propos du territoire autonome danois. Donald Trump qui a également signé un certain nombre de décrets depuis son retour à la Maison-Blanche. L'un d'eux vise à bannir les personnes transgenres de l'armée américaine. Le président l'a annoncé la nuit dernière. De son côté, le Sénat américain a confirmé hier la nomination du nouveau secrétaire au Trésor, l'équivalent du ministre de l'économie et des finances. Le milliardaire Scott Bessent sera chargé de mettre en œuvre les priorités économiques de Donald Trump, à savoir déréguler, tailler dans les impôts, et les dépenses. Précision Myriam Berber.
Ce financier âgé de 62 ans et diplômé de Yale est une personnalité appréciée des milieux d'affaires. Il dirige depuis 2016 sa propre société d'investissement Key Square Capital Management où il a cumulé une fortune de 500 millions de dollars. Ancien démocrate, Scott Bessent est également un proche de longue date de la famille Trump malgré ses liens passés avec le milliardaire libéral George Soros avec qui il a rompu. Réduire le déficit tout en soutenant la croissance économique, sa mission s'annonce difficile. Le pays fait face en effet à une dette publique colossale de 36 000 milliards de dollars. Le premier défi de Scott Bessent sera de mener les négociations sur l'augmentation des tarifs douaniers dans un contexte de tension commerciale mondiale. Il devra aussi prolonger les baisses d'impôts du premier mandat de Donald Trump qui doivent expirer à la fin de l'année et réduire les dépenses fédérales et notamment les politiques vertes avec les aides aux énergies renouvelables.
Les explications de Myriam Berber. En Ukraine, la Russie revendique la prise d'un village de la région de Kharkiv. Cette avancée illustre les difficultés de Kiev à contenir les troupes ennemies. Les forces russes progressent désormais dans la partie occidentale de la région dont elles avaient été chassées à l'automne 2022 lors d'une contre-offensive ukrainienne fulgurante. François Bayrou persiste et signe devant les députés. Le Premier ministre français a maintenu cet après-midi l'idée d'une submersion migratoire. Il réitère ses propos formulés dans un entretien sur la chaîne de télé LCI hier soir. François Bayrou qui avait estimé, je cite, que les apports étrangers étaient positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion et d'ajouter, je cite, dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne pas reconnaître votre pays, les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Fin de citation. Ces propos de François Bayrou font réagir et divisent jusque dans le bloc central, Chariot Urien-Tomaka.
À commencer par la présidente de l'Assemblée nationale qui prend ses distances avec le Premier ministre. Si elle appelle aussi, je cite, à réguler l'immigration, Yael Braun-Pivet se refuse d'utiliser les mêmes mots que François Bayrou.
Je n'aurais jamais tenu ces propos et il me gêne parce que c'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire.
À gauche, on fustige également la sortie du Premier ministre. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée estime que François Bayrou reprend la rhétorique de l'extrême droite. Mathilde Panot.
Les mots, mais aussi les actes de l'extrême droite se retrouvent dans ce gouvernement.
Je crois qu'un Premier ministre ne devrait jamais dire ça. Donc, je le redis, il est faux de dire que la France connaît une submersion migratoire.
Le député PS Arthur Delaporte prévient, François Bayrou pourrait connaître le même sort que son prédécesseur.
Quand la présidente de l'Assemblée nationale désavoue le Premier ministre à plusieurs reprises, c'est bien d'une part qu'il fait fausse route. À force de reproduire les mêmes erreurs que Michel Barnier, le Premier ministre risque de connaître le même sort. On ne peut pas impunément faire la courte échelle au Rassemblement national.
À l'inverse, pour le RN, François Bayrou n'agit pas assez. Marine Le Pen.
Ce que l'on attend de lui, ce sont des actes qui suivent les constats. Pour l'instant, on a beaucoup de constats et très peu d'actes.
Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau y voit quant à lui un soutien du Premier ministre à la politique qu'il préconise.
Charlotte Urien-Tomaka, par ailleurs le Premier ministre français, s'est exprimé au sujet du meurtre d'un jeune de 14 ans dans le sud de Paris, tué d'un coup de couteau il y a quelques jours. François Bayrou a invité les députés à se saisir de la question du port des armes blanches. C'est la fin de cette édition, il est bientôt 16h10 à Paris, lors de vous retrouver Nathalie Amar.
Bonjour Victor Missistrano.
Sur le pont des Arts.
Et à tout à l'heure sur le pont des Arts dans 30 secondes.